Bonjour, bienvenue dans Backline l'interview, l'interview musicale autrement.
Mais j'ai fait plein de...
j'ai fait des pains de savette.
Ouais, ça va être boulangerie-pâtisserie là.
Boulangerie-pâtisserie, des petits gâteaux à tout moment de temps.
Yeah.
Salut à tous, ça fait plaisir de vous retrouver après quasiment 2 ans d'arrêt. Backline Interview revient. Et pour cette première interview, je suis avec les collègues de AB Fire Club. Donc je vous le cache pas, c'est des amis. Antoine Brun, donc d'AB Fire, avec qui je joue dans d'autres groupes et que j'ai eu envie d'interviewer ici. Et Mathieu, qu'on avait déjà entendu lors de l'interview du groupe 111, qui est aussi dans le groupe d'Antoine Brun. Comme quoi le monde est petit.
Exactement. Bonjour, bonjour, bonjour Gégé, merci de nous recevoir chez toi.
Grand merci à toi, c'est très belle maison.
J'en rêvais de cette interview, ça faisait un moment.
Ça fait un moment qu'on en parle. Antoine, je t'appelle AB ou Antoine ?
Tu peux m'appeler Antoine.
Antoine, je vais te laisser présenter un petit peu le groupe AB Fire Club, que tu me l'expliques un peu le style que c'est, ce groupe, comment tu l'as créé.
Et bah c'est parti. Alors bah de base c'était un projet solo, donc AB Fire tout court, avec lequel j'ai sorti un album fin 2022, bien esprit autoproduction, quasiment tout par moi-même ou presque, avec aide de copains, notamment toi qui a mixé l'album.
C'est vrai.
On va le souligner quand même, qui a fait un superbe travail.
Merci.
Et oui non, faut le dire, ouais, donc voilà, c'est ça reste entre copains. Mais c'est vrai que c'était un projet solo, j'ai tout composé seul de base, voilà, je le défendais seul sur scène. Esprit folk, parce que c'était un projet folk, certes très arrangé sur l'album, et du coup avec matière à, pourquoi pas, le développer en full band, comme on dit. Et en gros, l'été, juste avant que je sorte l'album, Raph, qui est donc le bassiste au sein du club, m'a tendu quelques perches. Il est venu me voir en concert une ou deux fois d'affilée, ce qui était un exploit. Quand tes potes viennent te voir plusieurs fois d'affilée, c'est qu'ils aiment bien. Et il m'a dit qu'effectivement, il aimait bien et qu'il se projetait pas mal. « Ah, je viendrais bien faire un peu de basse avec toi. » Et je l'ai pas tout de suite pris au sérieux. Puis à force qu'on en parle autour de quelques bières, on s'est dit « Vas-y, pourquoi pas ?» Et moi, c'est clair que ça me trottait dans la tête, mais je me voyais pas le faire avec des inconnus. Donc dans Alors l'idée...
On en parlera un peu plus tard, oui. De tout cet aspect-là. J'aimerais bien que tu me parles un petit peu de comment tu l'as composé, cet album. Donc comment tu es passé au début, t'étais tout seul toi avec ta guitare folk, mais t'as fait un premier EP, il me semble, qui était déjà assez folk, vraiment guitare-chant. Et dans cet album-là, il y avait des synthés, de la batterie, des guitares, de la basse. Donc comment tu as fait ce travail-là ?
Moi, les genèses de mes compos, ça a toujours été du guitare-voix, donc acoustique. Et en même temps, vu que je fais plusieurs instruments, je suis même batteur de base, j'ai toujours eu l'envie de vouloir mettre d'autres instruments. Mais pour l'album, en fait, ça s'est un peu construit au fur et à mesure. Je devais normalement refaire un autre EP quand j'ai commencé le travail de l'album. Et puis, il y a eu la fameuse pandémie qu'on ne citera plus. Parce que voilà, ça suffit.
La fameuse.
Le mot en C qui a tout perturbé. qui a tout arrêté. Parce que j'étais plutôt bien parti avec mon copain Victor, que j'embrasse, qui m'aidait dans les prises son. Où on avait en fait pas mal entamé 6 titres, donc un EP. Et en fait, vu que tout s'arrêtait, que se passait rien, que j'avais pas mal de matière et d'envie, je me suis dit, après tout, foutu pour foutu, autant aller plus loin. Et un peu comme ça, sur un coup de tête, je me suis dit, je vais doubler la mise et je vais faire un album. Donc il y a des morceaux qui sont plus ou moins vieux, des morceaux qui sont plus récents à ce moment-là de la conception de l'album, mais ça restait toujours du guitare voix que voilà, que j'ai arrangé, que j'ai beaucoup maquetté, parce que forcément beaucoup de temps à tuer pendant cette sombre période, et ça s'est construit petit à petit. C'est vrai que t'es en cours de route, j'ai bien compris que ça allait être quelque chose de très produit et j'ai assumé. Je me suis dit, tu sais quoi, certes en live à ce moment-là je fais du guitare voix, mais là du coup c'est une version produite et très instrumentalisée, on va dire.
Alors, qu'est-ce que tu as utilisé comme instrument ? Tu as utilisé il y a des synthés. Alors, c'est quoi ? C'est des vrais synthés ?
C'est des VST, parce que j'ai un petit clavier MIDI très petit. Je ne saurais plus te dire, je crois que c'est un Akai, mais je suis même plus sûr. Il est vraiment pas. Voilà, c'est un truc assez basique. Mais derrière, avec les joies de la MAO, tu replaces tout comme il faut, tu fais tes automations et tout, ça marche. Et puis le clavier a un rôle d'arrangement, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup. D'ailleurs, il y en avait beaucoup plus sur les maquettes, j'ai épuré pas mal au fur et à mesure, parce que ça donnait... C'était trop pop aussi, et j'aimais moins. Mais voilà, il y a ces synthés. Les percus, c'est percus acoustiques pour le coup, j'ai tout enregistré avec des éléments de batterie que j'ai moi, vu que j'ai une batterie. Des claves, du tambourin, des œufs, là pour le coup c'est tout naturel.
C'est des vrais instruments.
C'est des vrais instruments, ouais. Toutes les percus, c'est du vrai. et c'est joué par moi.
Donc tout ce qui est clavier, c'est les claviers, c'est quel VST pour savoir?
J'ai pas mal utilisé MyTide qui va avec Studio One, parce que je travaille sur Studio One. Essentiellement celui-là, et puis quelques-uns, je crois qu'il y a un Upright Piano, il s'appelle comme ça. Je me souviens plus du développeur de celui-là, mais c'est beaucoup MyTide.
Et après, tout ce qui est PRQ, c'est des vrais instruments enregistrés?
Voilà, c'est un micro devant, façon traditionnelle, entre guillemets, quoi, mais c'est vraiment joué à un peu d'édition quand il y a besoin derrière, parce que voilà, je suis pas non plus un robot, même si je me démerde bien quand même, vu que je suis batteur d'origine. Mais c'est vraiment enregistré de façon tradie, comme j'ai eu enregistré plein de batteries dans ma vie, en fait, en studio, quoi. Et ça, on le faisait du coup avec mon pote Victor, qui avait une vraie pièce avec une acoustique un petit peu travaillée quand même pour... plutôt que chez moi dans un appart, quoi.
Et les guitares?
Et les guitares, bah pareil pour la folk, enregistré donc avec des micros, on est sur du SE électronique. Il y en avait un devant la Rosace, et puis on prenait aussi, parce que vu que je joue sur une Ibanez électroacoustique, donc j'avais aussi pris la sortie jack. Donc voilà, j'avais ces deux pistes. De base, j'ai tout doublé en gauche droite. Après, au fur et à mesure du mixage, toi-même, tu sais, des fois, on a fait le choix d'en mettre qu'une au centre. Des fois, on mettait deux guitares, une à gauche, une à droite. Ça, c'est une question de mixage, mais je voulais avoir le plus de matière possible. Et guitare électrique et basse, c'est avec des VST. Alors, c'est moi qui joue, bien sûr, mais j'ai pas d'ampli. Moi, je suis en simulation. Et là, sur le coup, à l'époque, j'avais pas encore le matos que j'utilise maintenant en live. Donc, c'est fait avec un archetype Gojira de chez Neural.
Okay.
Alors on fait pas du Gojira, mais il y a des super beaux clean, et puis tu peux doser ta disto pour pas être trop vénère non plus, parce qu'on fait pas du death metal, mais c'est le VST que j'ai utilisé pour toutes les guitares électriques.
Ça t'a convaincu au niveau de la qualité de son?
Ouais, c'était vraiment super. Moi, quand j'ai chopé ce VST là, je sais que beaucoup en sens Neural, et je dirais à juste titre, c'est vraiment chouette, c'est vraiment vraiment chouette. Puis dessus, il y a pas que Gojira, t'as accès à des échantillons de l'archétype Noli, et puis plein d'autres gars que je connais pas forcément. Il y a un peu de Cory Wong aussi. Moi, j'ai utilisé pas mal de sons de chez Noli, je crois. Pour la petite référence, Noli, c'était l'ancien bassiste du groupe Périphérie et producteur de Périphérie. En termes de son, c'est quelque chose qui me parle, parce que j'écoute beaucoup de métal, notamment du métal moderne, prog et tout. Donc c'est vrai que j'aimais bien ce genre de son. Après, moi, ma gratte, à l'époque, c'était une Squier, mais elle a fait le taf, et j'en suis vachement content.
Ça marche bien. Tu disais là que tu as pas mal épuré au début, que tu avais mis trop de synthé, que tu avais mis trop d'instruments. Tu peux me parler un petit peu de ça? Comment tu t'es rendu compte qu'il y en avait trop?
En fait, à force de me préparer à enregistrer les voix finales de l'album, donc à me répéter chez moi par-dessus donc mes maquettes, très très produites, très surchargées, je me rendais compte que c'était too much. Ça faisait un peu trop, que je voulais quand même pas trop non plus dénaturer la racine entre guillemets folk de ces compositions. Après, je pense qu'il y a plein de gens qui vont dire que c'est pas du tout de la folk, mais bon, après, ça libre à chacun d'interpréter. Mais voilà, je voulais pas non plus trop partir dans quelque chose. Tu vois, j'aime bien des groupes comme Imagine Dragons, je trouve ça intéressant, mais je voulais pas non plus faire du Imagine Dragons, quoi. Là, ça devient un peu trop produit pour ce que j'avais envie.
T'as des fois, c'est un peu l'inconvénient de la MAO, c'est que c'est tellement facile de rajouter une piste, de rajouter un instrument, qu'on a des fois tendance à...
Ah mais grave.
Il y a de la surenchère, tu tombes vite dans la surenchère, et clairement, il y avait des morceaux qui étaient dans la surenchère, donc j'en ai squeezé quand même pas mal, de façon, surtout les titres, hein, grosso modo.
Donc du coup, cet album, album que t'as produit tout seul, que j'ai mixé, donc je suis très content, et album très produit. Et à un moment donné, on s'est croisé, tu m'as dit « Ah, j'ai envie de le défendre en groupe ». Et je t'avais dit à l'époque « Mais comment tu vas faire ?» Parce qu'il y a tellement, entre les claviers, les percus, toutes les voix qu'on a sur un album produit, il y en a quand même un paquet et tout. Je me suis dit « Comment tu vas faire en vrai pour jouer tout ça ?»
Ouais, bah c'est vrai qu'il y a eu pas mal de questionnements, c'est pour ça que je l'ai pas fait trop rapidement. Déjà, c'était la question, c'est avec qui le faire, avec combien de musiciens? Parce que tu peux vite retrouver à être au moins 5, voire même plus, hein, si tu vas dans l'extrême. Et je voulais pas non plus ça, parce que ça allait être vite compliqué à gérer. Et puis bon, je regardais un peu mon entourage. Parce que moi, j'avais pas envie de le faire avec des inconnus. Dès le début, je me suis dit, si ça doit se faire, si ça doit se monter en groupe, faut que ça reste avec des copains. Quelle que soit l'ambition après du projet, je veux le faire avec des gens que je connais, avec qui j'ai déjà joué surtout. Au moins, ça, t'as un peu des raccourcis entre guillemets. T'as pas la désillusion au bout de 6 mois de te dire le mec est peut-être très bon, mais humainement ça colle pas. Enfin voilà. Voilà. J'ai eu le parti pris dès le début de me dire je le fais avec des gens que je connais.
Des gens mauvais, mais que tu connais.
Voilà. Non, bien sûr, je connais que des gens talentueux ou presque. Mais en tout cas, dans le club, ils sont tous talentueux.
Flagorneur.
Et en fait, ça s'est fait.
Attends, tu dis le club parce que je sais plus si on en a parlé au début, mais en fait, le groupe, donc à la base, c'est Abbey Fire.
Abbey Fire.
Et maintenant, c'est Abbey Fire Club.
Voilà. la formule groupe, plutôt que dire Ebifire plus machin truc ou formule groupe machin, bah on l'a trouvé ensemble, c'est comme un accord, on a rajouté ça à club, simple, efficace.
Ok, mais Ebifire tout seul, ça existe encore ou c'est...
Ça m'arrive encore de faire des dates solo, ouais. En tout cas, moi j'essaie de placer au maximum le club.
Donc vous avez tenu à avoir deux noms différents.
Je crois que ça permet de distinguer en fait quand tu cherches des dates ou à qui quel voilà. projet tu t'adresses en fait.
Oui, voilà.
Fire, solo.
Et puis petit à petit le contenu de mes réseaux, les contenus les plus récents, il y a des images des autres gars, il y a un logo qui est sorti, ça s'officialise petit à petit, tranquille ou bilou comme on dit. Après voilà, j'ai pas d'attaché
d'attaché de presse.
Ouais, voilà, j'ai pas tout ça, enfin c'est du DIY, hein.
Pas encore. Si un attaché presse nous écoute et
voilà,
qu'il
aime bien
ce
que
tu fais, on sait jamais.
Hein. Vas-y mollo sur ta com, mec. Ou meuf, tout dépend qui tu... Non, mais ouais, pour l'instant, c'est très DIY. Et pour revenir à la genèse du club, c'est Raph qui m'a donc le bassiste qui m'a très influencé et vraiment donné l'envie de le faire. Il est venu me voir plusieurs fois d'affilée en concert. Ce qui est plutôt cool quand c'est un copain qui vient de voir plusieurs fois et il m'a dit à chaque fois ouais, je me verrais bien avec une basse à côté de toi. Au début je l'ai pas trop pris au sérieux parce que juste avoir un bassiste avec moi, ouais bon pourquoi pas, mais bon tant qu'à faire autant aller à fond. Et de là est née vraiment l'idée d'abord tous les deux de se dire ah bah viens on recrute des gens, donc Fus ou Florent de son vrai prénom à la batterie, c'est son frère en fait, c'est le frère de Raph. Donc tout bonnement il m'a dit vas-y contacte-le, je pense qu'il est dispo, et le mec m'a répondu direct oui. Et après Mathieu Banchet à qui on a fait une opération séduction. Et je vais peut-être laisser parler un peu Mathieu. Il va raconter cette opération séduction.
Ils ont montré leurs meilleurs atours. Pour recontextualiser un petit peu, Antoine et moi, Raphaël, Fus, cette équipe-là, on se connaît depuis la fin du collège, grosso modo. Donc on a un petit peu déroulé du câble, ensemble, si je puis dire. Il s'avère également qu'Antoine et moi, on avait joué ensemble dans du métal progressif, à la belle époque, dans Stolen Memories. Donc on se connaît depuis très longtemps, et moi je suis bassiste à la base.
Et j'étais à la batterie dans ce projet, donc on faisait pas les instruments
non,
qu'on fait maintenant.
Non, ils font tout.
Mais oui, on était un basse-batterie tous les deux.
Ouais, on avait carrément pas les mêmes rôles et tout, donc on s'est un petit peu rencontrés là, donc je connais Raph aussi, voilà, on est une sorte de...
Toi qui nous écoutes et qui galère à faire deux accords de guitare, dis-toi qu'il joue bien de la batterie, de la basse, de la guitare, il chante, il fout de la mort un peu.
On essaie.
Merci pour eux.
Tu plaisantes.
C'est pas le but. C'est pas le but. Et il y a pas mal de gens qui diraient.
Ah oui, oui, oui.
Voilà.
Et donc, du coup, en fait, effectivement, Raph, il faisait un petit peu du pied à Antoine sur l'idée de rejouer ensemble. Déjà, ça partait d'un truc un peu humain. Et en fait, on s'est fait très simplement un week-end dans le sud, puisqu'il faut savoir que notre estimé bassiste, il habite pas tout à fait à côté.
Il est vers Aix-en-Provence.
Voilà, donc il nous a emmené boire du vin blanc dans des vignes avec une bande de hippies sympathiques.
C'est exactement ça.
Pour faire ça.
C'est exactement ce qui s'est passé.
Et c'est à ce moment-là où Antoine m'a pris la main, m'a dit « Viens jouer, ça serait bien. » Et Raph aussi, pareil. Donc mes deux mains étaient prises par mes camarades. Ils m'ont dit « C'est cool, ça va être un projet intéressant. » Parce que moi, déjà de base, j'aime bien la musique d'Antoine. Ça, c'était l'obligation,
oui,
tu vois, d'avoir le truc.
Fallait que tu aimes ce que tu fais, quoi.
Oui, parce que l'idée de base, c'était déjà de rejouer les morceaux de l'album existant. On partait pas de zéro, quoi.
Non.
Il fallait forcément aimer, quoi.
C'était un petit peu comprendre c'était quoi le projet, quel pouvait être le rôle des sidemen et tout. Et en fait, on en a parlé tout ce week-end. On a bu des canons aussi.
On a joué beaucoup de musique.
On a fait un concert aussi, mais c'est une autre histoire, avec à peu près une heure et demie de répète et 3 grammes d'alcool dans le sang.
Et beaucoup de rhum.
Ça devait être joli.
Voilà, ça c'était sympathique.
Le jeu des Moldus, c'était parfait.
Paraît-il.
Ouais, c'était vraiment improvisé. Mais voilà, ça relançait un petit truc, je pense.
Je me suis laissé tenter dans le pourvoir, et puis effectivement, une fois que j'y ai douté, en fait, on se connaît, j'aime bien.
Il s'est accordé un délai de réflexion.
Alors du coup, moi, il y a quand même une question qui me vient, parce qu'au niveau des morceaux, au niveau de leur construction, donc ça part souvent sur des débuts de guitare chant folk avec une batterie qui arrive, mais la batterie elle est rarement sur tout le morceau, elle est souvent sur la fin des morceaux pour donner un peu d'énergie. Il y a beaucoup de claviers, les guitares c'est toi qui les fais, donc il y a beaucoup de guitare folk, quelques riffs de guitare, mais c'est surtout les claviers qui font les mélodies. Et là tu te retrouves avec un batteur qui, je me dis, a peut-être envie de jouer un peu plus que sur la fin des morceaux. Un bassiste pareil qui aura peut-être envie de jouer un peu plus que les 3 dernières mesures des morceaux, et un guitariste qui a plein de lignes de synthé à récupérer. Comment vous avez fait pour réarranger?
Très bonne question.
Et ça s'est fait un peu naturellement. Moi j'avais une idée dans la tête quand même, hein, de me dire que ça allait être une réinterprétation des titres. C'est clair qu'on n'allait pas s'amuser à repiquer tel quel les titres de l'album.
C'était de toute façon pas possible en fait.
Et ouais, parce que déjà on n'a pas de clavier.
Nous ne faisons pas de clavier, auditeur.
Pas en live, on va dire.
Pas en live, du moins.
Voilà. On peut produire sur un scud, mais ouais, en live, on n'est pas clavieriste non plus. On n'est pas équipé pour. Puis bon, c'était pas le but. Puis j'aimais bien, en fait, l'idée de revenir à cette essence rock. Donc là, on quitte un peu la folk pour parler au présent et on va sur du rock.
Et je crois que quand Antoine nous a recrutés, en fait, il savait déjà les personnalités musicales.
Ah bah
qu'on
complètement.
Avait.
Je connaissais l'historique des gars. Les deux frangins, le basse batterie, ils ont fait beaucoup de punk rock quoi, ensemble avec.
Ils sont frères.
Voilà, on précise avec Buttersnail. Bah oui, je savais dans quoi. Enfin voilà, je savais qui je recrutais entre guillemets quoi. Mmh. Je savais un peu leur style et tout, leurs envies, leurs attentes.
Tu savais que le son de live allait changer de la production.
Complètement. Et que ça allait devoir s'adapter par rapport à leur style. Et en même temps, j'aimais bien ça. L'idée de me dire, bah ils vont apporter quelque chose. Ils vont apporter leurs pattes et leur style. Donc c'était assez libre quoi. Ça s'est fait comme ça.
Oui.
Donc comment vous avez fait alors du coup? Toi, tu découvres l'album, t'écoutes les chansons, tu entends des choses et tu dis bon bah comment je vais me situer là-dedans? Quelle va être ma place? Comment tu as travaillé en fait ton instrument guitare pour essayer de répondre au mieux à la couleur de l'album?
Ben moi, il y avait déjà un petit défi guitaristique, puisque effectivement, j'ai quand même une expérience un petit peu sur l'instrument, mais c'était pas du tout le même style. Là, il y avait quelque chose de bien produit, bien réalisé, qui laissait plein d'horizons possibles. Ben, la première étape, je crois que c'est un peu quand même une passion commune et humble du geekage de son. Je crois que c'est pas anodin qu'on soit là aujourd'hui, du coup.
Ouais,
c'est-à-dire
bien.
d'aller choper un petit peu l'esprit de l'album. Donc, globalement, j'en ai parlé avec Antoine beaucoup. Tu vois,
de ouais, bah ouais, comment ça sonne. Beaucoup de blabla, c'est normal, ouais.
J'ai eu aussi accès aux pistes séparées des arrangements. Donc, moi, ma première étape, c'était de me dire, quels overdubs je vise, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui garde l'énergie rock, mais qui donne quand même le côté un petit peu cool, éthéré, clavier. J'ai essayé un petit peu de travailler les sons par rapport à ce que j'entendais, puis après, il y a la réelle qui se pointe, on répète, en reparlant, tu vois, en retour avec Antoine, et se dire, voilà, est-ce que ça sonne, est-ce que ça sonne pas. Et je crois que cette phase n'est pas encore terminée, puisque finalement, moi, pour moi... C'est un petit peu le début du club. C'est pas le début.
Oui, ça fait tout juste un an qu'on a commencé cette expérience, hein, donc c'est et on répète pas tant que ça, donc c'est encore frais. Mais on s'est vu aussi tous les deux dans ta cave, Mathieu, pour geeker, pour clairement. Donc là, ouais. Ça allait saouler les deux autres, donc on s'est vu que tous les deux. Pour voir vraiment.
C'est-à-dire qu'il y en a qui préfèrent geeker plus que d'autres dans le groupe, c'est ça?
Ouais,
simplement. Oui, nous on
non,
est plus intéressés sur ça.
Au niveau basse-batte, il y a moins de recherche de son, c'est un peu plus brut, mais c'est voulu aussi.
C'est ce que j'ai vu en live, parce que je vous ai vu en live à votre premier concert, et effectivement, la basse était très brute. On sent que ça, son esprit, c'est je branche ma basse dans mon ampli, et puis il en sort ça.
Complètement, mais c'est assumé, hein.
C'est plug and play assumé.
Côté punk.
Exactement.
Et vous deux, au niveau des guitares, c'est vrai que vous avez des sons qui sont beaucoup plus travaillés. Ça s'entend au niveau des couleurs. J'aimerais bien qu'on en parle un petit peu, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait un petit peu du changement au niveau de votre matériel en ce moment. Vous êtes arrivés tous les deux avec deux beaux pédalboards devant vous. Enfin, un beau pédalboard.
Un peu bordélique pour le mien.
Un peu bordélique pour Mathieu. Mais oui, mais t'es en pleine restructuration.
Oui,
c'est ça.
Il a changé depuis un an. Ouais.
Et Antoine qui a juste un appareil, un Linksys Podgo qui fait tout.
Exactement.
Donc j'aimerais bien que vous en parliez un petit peu de votre choix de matériel.
J'ai investi dans un Linksys Podgo il y a environ 2 ou 3 ans. En fait, c'est suite à mes prises son de l'album où j'avais déjà pas mal geeké le fameux Archetype. J'aimais bien cette solution de simulation. Puis que je suis un jeune guitariste électrique. De base, je faisais que de la folk. Ça fait pas si longtemps que ça que je fais de la guitare électrique. Donc, j'ai pas vraiment de passif et d'historique avec des vrais amplis. J'en ai eu un vite fait, mais bon, pas un truc qui ouf, quoi. Donc, ouais, j'ai bien aimé cette solution live. Et, bien sûr, j'avais lorgné sur le Helix. Mais mon compte en banque m'a dit c'est mort.
C'est quoi le Helix?
Le Helix, c'est le grand frère du Podgo. Enfin, il est beaucoup plus gros. Il a un processeur beaucoup plus puissant. Tu peux donc faire des chaînes d'effets beaucoup plus longues. T'as beaucoup plus de foot switch. Mais grosso modo, les sons, les simulations d'ampli sont les mêmes.
Comment ça fonctionne? Tu peux expliquer un petit peu
Bah en fait, si tu pars de zéro sur ton preset, alors il y a des presets existants bien sûr, mais si tu pars de zéro, tu te choisis une simulation d'ampli, une tête d'ampli ou préampli d'ailleurs, tu as les deux. Derrière, tu mets ton cab. Moi, en l'occurrence, j'utilise des IR, les Impulse Response. Pardon, je l'ai très mal dit. Que j'ai chopé sur internet.
Alors juste pour expliquer à ceux qui savent pas, en fait,
c'est une sorte de photographie sonore d'un matos déterminé. Exactement. Pièce, micro, ampli. enceinte.
C'est voilà, c'est en gros, c'est des enregistrements. Les personnes prennent un cab, par exemple. Ils vont envoyer des fréquences dedans et enregistrer la réponse impulsionnelle avec un micro. Et ça, après, ils en font une, un micmac. C'est leur c'est système ça. Interne. Et ça fait qu'en sortie, en fait, on a une simulation d'haut-parleur.
Exactement. Qui rajoute un peu de chaleur, un peu d'air que t'as pas forcément avec les simulations de base. Enfin, j'ai trouvé ça à la base. Hein, donc, du coup, j'utilise ça.
C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même, quand on compare les simulations actuelles à ce qui se faisait il y a peut-être 10 ans ou 15 ans en arrière quand ça a commencé, avant ça sonnait, c'était dégueulasse, ça ressemblait à rien. Et maintenant, c'est assez bluffant à tel point que même des gens qui sont à fond dans les lampes, ils n'entendent pas bien la différence quand c'est enregistré. Quoi.
Bah, c'était le gros problème du Line 6 Pod tout court, celui qui a une quinzaine d'années maintenant, même peut-être un peu plus. Ouais, le petit haricot rouge.
On s'en souvient.
En fait, ça, le Podgo vient un peu de ça. Hein. Bon, il a pas du tout la même gueule, mais en gros, ils ont voulu faire un petit peu le revival de ça, mais avec la technologie d'aujourd'hui. Mais c'est vrai que le Pod de l'époque, je m'en rappelle, je connaissais un mec qui l'avait, ça sonnait hyper froid, c'était vraiment... l'époque, c'était sympa de se dire, ah, ça sort un son de guitare sans un ampli, mais, ah, putain, il n'y avait pas photo, quoi.
C'était révolutionnaire, mais.
Ça avait pas la qualité sonore de, voilà. Alors que là, t'as un truc canon.
Ouais,
quoi.
C'est propre. Donc, tu disais, tu choisis un ampli, et après, tu peux ajouter des pédales dessus.
Exactement. Donc, je me suis mis, par exemple, une pédale de compression, une pédale d'équa aussi. Comme ça, tu te dessines un peu plus ton son. Et en fait, tu te fais des presets. Alors là, moi, j'ai le parti pris aujourd'hui, en tout cas, dans le Ebifire Club, d'avoir un preset par morceau.
D'accord.
Donc, comme ça, vraiment, t'as des morceaux qui vont avoir besoin peut-être de disto, d'autres pas. Donc, je vais pouvoir vraiment personnaliser comme si j'avais un pedalboard physique différent pour chaque morceau. C'est ça qui est assez magique avec ce matériel.
Ouais, c'est un peu tout l'intérêt, en fait.
Ouais. Après, ça peut vite rendre fou et tu peux y passer des heures à chercher l'ultime pédale, l'ultime tête d'ampli. Bon. Moi, je suis sur de la simulation d'Orange parce que j'aimais bien l'entre-deux où t'as un petit côté un peu vintage, mais pas trop. Et en même temps, ça reste quand même moderne. Pour celui-là, en tout cas.
Okay.
On n'est pas sur du vieux Orange, quoi.
Donc, t'as un preset par morceau.
Voilà.
Mais t'as tout le temps le même ampli.
Par contre, oui. Pour pas que ça soit trop n'importe quoi, pour rester, J'ai toujours la même base. Tête d'ampli, cab, compresseur, EQ. C'est les mêmes dans tous mes presets.
D'accord, ok.
C'est les autres pédales qui peuvent bouger. Et quand c'est de la grosse disto, en général, c'est la même. D'un titre à l'autre, je mets une grosse pédale de disto. Alors, c'est pareil. Bah, je crois que c'est celle de Line 6. Ouais, ils l'appellent la Line 6 Distortion, tout simplement. Qui marche très bien. Et voilà, après, délai, reverb, t'as du choix. Hein, ça... Puis il y en a une, je pense qu'elle ressemble un peu à la Big Sky, mais je suis pas sûr. Je pense qu'ils ont voulu un peu simuler ça. Si tu regardes sur Internet, tu peux voir un peu à chaque fois. Ils ont pas les autorisations, donc t'as pas les vrais noms, mais en gros, c'est un peu des copies.
La Big Cloud.
La Big Cloud, c'est un peu ça. C'est le délire.
Il y a la Tube Screamer, par exemple. Elle s'appelle pas comme ça, mais il y a un petit dessin, elle est verte, elle lui ressemble étrangement.
Coïncidence.
Voilà. Non, mais ils le font pour ça, ils le font tous. Hein. C'est un secret pour personne, que ce soit chez le Helix, que ce soit du Kemper, du Fractal.
L'ampli Bender est vraiment bien. Hein.
Voilà.
J'adore Bender.
C'est marrant. Bah, tu vois, le Orange, par exemple, ils l'ont appelé Mandarin. Mandarine, tu vois. Il y a un petit délire. Il y a un petit délire. Je sais que sur d'autres shows de constructeurs, ils l'ont appelé Green, je crois. Okay. Ils se sont amusés. C'est un peu le.
Ok, donc toi, t'as pris le parti pris. Et tes deux guitares, donc, parce que tu joues de la folk, tu la joues aussi.
Oui.
Voilà, donc,
selon les titres, je switch entre la folk et l'électrique.
D'accord. Donc tout passe par le même pédalier.
Oui.
Tout léger, tout petit, là, comme ça, là.
C'est ça, parce que j'ai aussi un preset folk, où là, sur le preset folk, il y a juste une compression, un EQ et une petite reverb, parce que c'est joli.
T'as des petits effets chichi, non?
Des fois, je balance un délai sympa, mais pas trop. Au début, j'avais essayé de mettre de la disto. C'est bon, ça marche pas, parce qu'on n'a pas de micro, on a un piezo, hein, ça fonctionne pas, clairement. En tout cas, pas avec ce matos-là. J'ai pas réussi à trouver un truc qui marche. Ouais. Donc j'ai arrêté ça. Donc en gros, les morceaux, au fur et à mesure qu'on les a réarrangés, il y avait le parti pris de dire celle-là je la joue encore à la folk, celle-là je la joue à l'électrique. Et plus ça va, et plus il y a beaucoup de morceaux à l'électrique. On va pas se mentir.
Oui.
Et toi Mathieu, parce que alors, du coup, je vous ai vu en concert, c'était je sais plus, fin 2020, peu importe, il n'y a pas si longtemps que ça. Et on avait discuté un petit peu après en backstage, et tu me disais que tu avais un gros pédalier, que tu galérais un peu avec tes pédales, que tu as essayé de rechercher tes sons. Et là, je vois qu'il s'est beaucoup simplifié. Alors, qu'est-ce qui s'est passé?
Eh ben, on a eu cette conversation, GG. Et celle-ci a été doublée par beaucoup de conversations avec Antoine. Voilà, toujours parler son, essayer de...
Je l'ai un peu usé.
De produire... Je l'aurais pas dit comme ça, j'aurais été plus poli. Il m'a convaincu. Voilà, c'est ça. Non, en fait, moi, à la base, sur ce deal, et là, tu nous as vu, j'étais sur mon vieux Lanet, un LC30 de mémoire.
Donc, vrai ampli.
Vrai ampli, à lampe, qui fait le café, qui fait le plaisir, qui est très typé années 90, mais on a de la chance, dans la conjoncture actuelle, c'est redevenu à la mode. Donc du coup, ça sonne bien. Super.
Merci The Weeknd d'avoir tout changé.
C'est nos influences aussi.
Entre autres.
Ça nous parle.
Et donc du coup, ça marche bien, mais il y avait quand même deux aspects en fait qui posaient question. C'est un, le travail des lampes. Le côté un peu versatile du son, en fait, entre le moment où tu balances et le moment où ton ampli est bien chaud, sa mère, et en fait, tu prends un espace sonore.
On a tous connu ça, le guitariste qui fait ses balances, ça va bien, puis on joue deux heures après.
Exactement. Et il éclate la tête à tout le monde.
J'ai le brise de penser, je ne suis pas un guitariste qui joue fort, mais en fait, c'était trop fort, c'était chiant, c'était pas gérable. Ça, couplé à, tu sais, tout l'entretien que nécessite un ampli à lampe, il faut changer les lampes, faut penser tes lampes, il faut l'emmener souvent chez le docteur. Il faut que tu n'aies pas de buzz et tout et tout et tout. Bref, l'analo quoi, avec tous ses plaisirs et ses déplaisirs.
Petit truc aussi que je me suis rendu compte lors de votre concert et que j'avais oublié, parce que alors moi au sein de mes groupes, parce que je suis musicien aussi, je fais pas que des interviews, et quasiment tous les guitaristes maintenant sont sur simulation, donc sont directement envoyés dans la sono en façade. Et ce que j'avais vu avec toi et que j'avais pas vu depuis longtemps pour le coup, c'était la directivité des amplis.
Le tunnel d'aigu qui
le tombe tunnel d'aigu qui part tout droit, où tu fais un pas sur le côté, il y a plus d'aigu, et si quelqu'un se met devant ton ampli, on n'entend plus les aigus. Et dans une configuration de petite scène, alors je dis pas si c'est un gros festival ou que l'ampli est repiqué, il y a pas de problème.
On l'avait repiqué, mais on maîtrise pas trop le truc, on n'avait pas forcément le micro adéquat aussi, je pense.
On avait fait ça vite, ça aurait pris du temps qu'on n'avait pas en fait. Donc
mais l'ampli prenait de la place de toute façon, même en façade, vu que c'était une petite scène, donc la diffusion du son de l'ampli original, le brut, sans être repiqué, déjà il diffusait beaucoup en face, et c'est vrai que ça fait que le son est moins constant que grâce à une simulation, quoi.
Non, oui, t'as moins de contrôle. Mais la deuxième raison aussi, c'est la versatilité de l'outil. Là, pour dire, moi, je suis sur le Hachit Stomp. C'est un peu le frérot de celui d'Antoine. Et en fait, moi, en tant que musicien, je fais de la basse, je fais de la guitare électroacoustique, je fais de la guitare électrique. Une boîte qui permet de faire toutes ces pratiques-là, quand tu joues quand même relativement régulièrement, ça m'amène au dernier point qui est vraiment le confort de transport et de simplicité de logistique. Parce que c'est des outils que tu utilises à la condition sine qua non, je précise à nos chers auditeurs et auditrices, si tu aimes geeker, on a utilisé ce verbe tout à l'heure, il faut y passer du temps. Si tu branches ça, t'allumes, tu prends ta guitare ou ta basse ou que sais-je, ça va pas sonner comme un ampli acoustique. Analogique plutôt, je devrais dire. Donc il faut, à la condition d'aimer chercher le son, comprendre comment c'est fait, comprendre aussi les manips qui sont inhérentes à la machine, c'est-à-dire que ça marche pas vraiment comme un ampli. Dans la mesure où tu peux changer le chaînage de ce que tu peux faire, globalement le mien il fait les mêmes trucs que celui d'Antoine, hein. Tu peux faire des chaînages qui n'ont aucun sens dans le monde réel, entre guillemets.
Ah, tu peux expliquer un peu ce que c'est un chaînage ?
Le chaînage, en fait, c'est le chemin du son que tu choisis d'avoir de ta guitare au haut-parleur qui envoie du son. Donc ça va être un préampli ou un combo ou une tête d'ampli avec le haut-parleur, le type de micro qui va reprendre ce son-là, sans compter tous les effets potentiels qui peuvent se mettre avant, après. Et en fait, dans le monde réel, très souvent, ta guitare effet, la boucle d'effet dans un ampli potentiellement ou pas. Et puis ensuite, ampli, et l'ampli, il est repris par un micro. Et tout le monde entend le son du micro et pas le son de l'ampli. Mais ça, c'est un autre débat. Là, tu peux mettre, je sais pas, une pédale, un préampli, un HP, un deuxième préampli. Enfin, ça, ouais, ce que je dis n'a aucun sens, mais ça fait quelque chose. Ces possibilités-là ouvrent des horizons qui donnent un truc qui est spécifique, je pense, au modeleur. On appelle ça un modeleur. Donc, il faut y méditer.
Faut aimer geeker.
Ils vont même jusqu'à, c'est ça qu'on peut le préciser, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais quand tu choisis ton câble.
On n'est pas sponsorisé par l'ANSIX, hein, je vous dis.
Putain, non.
Après, s'ils sont là, bon. T'as même des, ils ont même simulé des micros, du coup, tu peux mettre un micro ruban, un micro statique, machin, ça va avoir une influence sur le final, résultat, ouais. Hein, ça va méga loin, la position et tout. Enfin, Neural le fait aussi d'ailleurs.
Alors, il faut aussi, je me permets de rebondir, faut aussi faire le deuil de la pression acoustique que tu ressens en concert. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas parce qu'ils ont pas du train-train derrière eux qui pousse.
Ils ont pas leur ampli dans la mouille, quoi.
C'est ça.
On en avait parlé avec 111 quand je l'avais interviewé. On parlait ça quand vous étiez passé au IA.
Oui.
Oui, et oui. Je vous demandais justement cette idée de sensation. D'ailleurs, vous m'avez convaincu, moi je suis passé au Weir aussi depuis cette interview.
C'est quand même le monde du jour et de la nuit.
C'est ouais. Et effectivement, c'est vrai qu'on a moins cette sensation du gros kick qui nous pousse, du son de la basse qui fait trembler la partie du corps qu'on veut. Est-ce que c'est perturbant au final avec du recul? C'est quelque chose qui te manque? C'est quelque chose que tu as accepté?
Bah, avec 111, que je salue au passage. J'étais dans une config un peu hybride, donc j'étais au Ears avec toute la problématique de ça pousse pas derrière qui est présente, et j'avais pas nécessairement l'ampli sur scène, il tournait littéralement dans les coulisses à 3000 décibels pour qu'il y ait tout le grain de l'ampli que j'utilisais à l'époque. Là, la pression acoustique, ça me... En fait, alors c'est un peu ironique, mais il y a beaucoup de gens qui utilisent ces technologies-là avec une petite enceinte à réponse neutre qu'on appelle FR-FR.
Exact.
Donc, qui, moi, annule mon deuxième point d'intérêt, c'est-à-dire pas prendre des boîtes et trimballer des trucs.
C'est ça. Moi, je m'étais tâté sur FR-FR et je me suis dit, mais je régresse, je vais avoir des trucs à porter lourd.
Donc, c'est un des intérêts. Hein. En lieu et place du DJ, c'est quand même un des intérêts, c'est de pas pousser des trucs. Mais en fait, tu peux retrouver cette sensation de pression acoustique. En fait, ça dépend où tu joues et tout, parce qu'il y a aussi ce côté versatile qui est important. Tu fais de la basse, tu fais de la guitare, tu fais du machin. Si tu joues dans un lieu où il y a un retour, ce qui est à notre niveau, nous, de développement du groupe, pas toujours le cas, mais quand tu tournes un peu, quand même, ça arrive. Je pense que la pression acoustique ne manque pas. Par contre, faire des sons sur ces boîtes au casque avec un petit thé et des jolies pantoufles comme celles que tu portes actuellement. et en fait, t'arrives, tu joues en répète, t'es sur du live, tout le monde est beaucoup plus fort et
t'as une vraie batterie. Qui change la donne.
Ça ne marche pas.
Ouais, ok.
Il faut prendre en compte de bosser déjà à fond sur la machine avec l'espèce de master, le simili master là que t'as, et il faut toujours vérifier avec ton matos de répète ou faire des résidences pour être vraiment sûr que ça fonctionne. Voilà, faut prendre ça en compte.
C'est-à-dire que ce que tu vas régler chez toi, comme tu dis, avec ton petit casque ou tes enceintes de monitoring, faut se prévoir de la marge de manœuvre.
Oui, exactement. Et puis t'as forcément de la désillusion et de la mauvaise surprise.
Ce qui nous est arrivé, mais parce qu'on a contrôlé ça, on s'est fait des sessions.
Ce qui est aussi le, enfin comme on dit tout le temps, hein, c'est que le son qu'on a aussi tout seul chez soi, c'est pas le son qui marche en groupe. Même avec un ampli.
Non.
Bien sûr, ben oui.
Non, et puis en fait, comme c'est plutôt confort et l'image du thé et des pantoufles est importante, tu vas mettre masse de gain, masse de disto, masse de compression dans ton casque, un peu chichi, ça sonne, c'est trop cool. Mais en fait, quand tu sors dans la boîte random d'un lieu random, c'est pas tout à fait la même. Donc il faut pas avoir la main lourde en fait. Il faut vraiment gérer ça, je trouve. Si tu gardes ça en tête et la pression acoustique, tu t'en fais plus ou moins le deuil ou t'as un retour. Pour les moldus,
c'est kiff-kiff.
Après, il y a le plaisir et tout l'imaginaire de l'ampli. Hein, tu vois, moi, je suis ni pour l'un ni pour l'autre. En vrai, je trouve que c'est la solution intéressante pour IB Fire Club. Voilà.
Et je vois que sur ton pédalboard, donc t'as quand même d'autres pédales que t'as gardées. T'as de la Strymon, je vois.
La vraie Big Sky. Ouais, j'ai cassé mon PEL quand même. Voilà, coucou la banque. Non, en vrai, quand tu m'avais vu sur le show, j'avais un EQ Analo, j'avais un Emitser 10 bandes, je crois, de mémoire. J'avais un compresseur aussi. J'avais au moins ça en plus. Je crois que j'avais une deuxième disto. Bref, j'avais des configs qui sont compliqués. En fait, moi, être guitariste et jouer avec les pièces, ça reste encore une marche de progression pour moi. Donc, j'ai viré tout ça. En gros, je gère tout ce qui est... ampli, pré-ampli, HP, Tutti Quanti, sur le Hit Stomp. J'utilise tous les effets temporels avec la BeatSky Strymon, qui est quand même une Rolls-Royce, c'est trop cool, et la Strymon Timeline, voilà. Mais j'aime pas Strymon, sinon, faut préciser.
On n'est pas sponsorisé
non plus, mais si vous nous écoutez...
Si nous écoutent, les gars, allez-y.
Strymon, envoyez-nous du pognon, et je pense que je me suis fait avoir par le marketing d'Internet, puisque c'est on passe pas beaucoup de temps à essayer quand même d'aller voir les chaînes qui parlent de matos, les podcasts qui parlent de son et tout. J'ai été séduit par la Chernom Ridge, qui a eu une média hype. C'est une
je ne connais pas celle-là.
C'est des Français qui
font ça. C'est français.
C'est français, ça fait plaisir. C'est une pédale de distorsion dont tu peux contrôler le niveau d'écrêtage de ce que j'ai saisi, parce que j'aime le son, mais je ne suis pas un ingénieur du son. Et donc, comment ça se ressent quand tu fais de la musique avec ? Tu peux gérer ce niveau d'écrêtage, tu as les médiums, volume, ton niveau de grave et d'aigu en entrée et en sortie de signal. En fait, c'est très précis et tu peux avoir 5, 6, je sais pas combien de distos, y compris retrouver celle de ta disto préférée si tu compares, en une pédale. Donc, c'est un putain de couteau suisse hyper cool. Tu peux enregistrer un preset et avoir...
T'en es content, du coup?
Ouais, j'en suis plutôt content.
Parce que tu disais, je me fais avoir par marketing, comme si c'était une erreur.
Non.
je vais avoir par la hype, mais la hype est un peu justifiée.
En fait, la hype m'a pris, et d'habitude, j'essaye de pas me laisser avoir par la hype, mais je suis allé l'essayer, j'en ai parlé avec les gens. Moi, je suis allé chez Effect Online, il s'appelle toujours.
Oui, à Lyon. Hein.
Des gens très sympathiques, très cool. Ouais, t'as le temps d'essayer les choses, et en fait, la hype s'est avérée justifiée. Mais voilà, c'est un achat un peu...
compulsif.
Voilà, c'est ça.
Vous nous faites écouter un petit peu quelques petits sons, parce que vous avez emmené votre pédale board pour rien, vous avez emmené vos guitares.
C'est parti.
Alors, ils s'installent. Nos copains s'installent. Alors... je me suis dit que ce serait peut-être pas mal, vu que vous avez pas mal travaillé vos sons, que Mathieu, tu nous as dit que vous aviez geeké des heures et des heures sur ces changements de pédales. Je voulais un petit peu entendre les différents sons. Ça, c'est bien guitariste, il joue pendant qu'on parle.
Ouais, c'est monsieur la tradition.
C'est normal.
Je m'excuse, j'arrête.
Alors Antoine, tu vas nous montrer un petit peu tes différents sons. Et nous les expliquer.
Oui, là par exemple, j'ai un preset pour le titre 30. Single de mon album, petite auto-promo au passage. Et par exemple celui-là, là t'as le son, on va dire, de base du morceau. Un son clean, légèrement crunchy. J'aime bien quand ça croustille un petit peu comme ça. Avec reverb, délai qui vont bien.
Léger et fin.
Ah, dans l'esprit, c'est un peu le son que j'utilise le plus, je pense, au sein du club. Parce que même dans les autres titres, c'est le clean, on va dire, le son clean de base que j'utilise.
Tu peux nous expliquer ton petit chaînage d'effets là que...
Alors, enchaînage d'effets. Alors, on a une pédale de disto au début qui, pour l'instant, n'est pas activée, bien sûr. La Line 6 Distortion. Derrière, il y a un EQ. Ensuite, tête d'ampli, donc simule d'orange.
La mandarin.
Voilà, la mandarin.
La célèbre.
Le mandarin, je sais pas comment on le dit. Derrière, donc j'ai un IR, c'est un IR de Jens Bogren, je sais pas si ça vous parle, c'est un producteur finlandais qui fait du gros métal de bourrin, mais qui fait aussi des IR pour clean, lead et tout, et j'ai récupéré ces IR qui sont vachement intéressants, voilà pour la petite histoire. Derrière, il y a un compresseur dynamique, le LA Studio Comp, une pédale de délai, donc avec une stéréo, et une pédale de reverb, la reverb plateau, que je soupçonne d'être...
Une plate.
Tout simplement. Non, j'allais dire peut-être un peu une imitation d'une Big Sky, je sais pas. Parce que le dessin ressemble un peu à une montagne, donc je me dis, est-ce qu'il y a quelque chose ou pas du tout, je sais pas.
Je sais pas.
Quasi dans un autre petit son.
Et en fait, au sein du même preset, ce qui est très cool avec Line 6, alors je vais pas dire de conneries, mais j'ai l'impression que c'est eux qui ont un peu lancé ça, c'est les snapshots. Les snapshots, c'est vachement bien parce qu'au sein de ton preset, en fait, en changeant de foot switch, sans changer de preset, tu vas changer les réglages en fait de toutes tes pédales et tout. Mmh. Activer par exemple une disto sur un snapshot en particulier. Et donc sur ce son de disto, par exemple, si je fais péter ne serait-ce qu'un crunch. Il y a beaucoup moins de reverb, il y a plus de délai. La pédale est éteinte. Donc tout ça, c'est plutôt bien parce que tu vas pas appuyer sur trois pédales en même temps.
Là, tu veux dire comme je faisais en juillet ?
Voilà. Ouais. C'est plutôt pratique.
C'est vrai que l'avantage, c'est que quand on est guitariste avec plein de pédales, si on n'a pas un petit boîtier MIDI qui permet de contrôler toutes les pédales en même temps... Voilà, tu sais de quoi je parle.
Ah oui, je vois tout à fait la problématique.
On se retrouve à devoir des fois changer trois pédales en même temps, et du coup, c'est vrai que là, avec ce système de snapshot dans le multi-effet de Line 6, ça permet en fait en un seul switch de changer tous les paramètres qu'on veut.
Oui, je pense pas que ça soit les seuls qui fassent
ça. Non, je pense pas.
Pour autant.
Et du snapshot, non, pas forcément. Je sais que Headrush, pour le Headrush Prime, tu changes de preset, mais ils ont prévu une option pour que t'aies pas une coupure nette de tes effets un peu dégueu.
Ouais, ouais.
Parce que c'était ça le problème. Avant, j'utilisais pas les snapshots, et en fait, je m'y suis intéressé à cause de ça. Parce que je changeais, par exemple, je passais d'un clean, ou plutôt d'une grosse disto à un clean, ça faisait. Ça coupait d'un coup, c'était très moche. Là, t'as plus problème. Tu vois, par exemple, si je joue. Là, je suis repassé en clean. Tu vois, je repasse en crunch. C'est assez fluide. Et là, si je fais péter la disto.
Je croyais que tu faisais de la folk, moi.
Et bah, je suis un gros métalleux frustré. On va pas se mentir. Non, mais on s'est amusé en fait pour par exemple ce titre 30, vu que j'ai pris celui-là en exemple. Le milieu du morceau, il y a un passage assez typé électro avec du. Un peu, hein, tranquillement. Mais qui fait. Voilà, qui crée un peu la surprise au milieu de ce morceau. Et du coup, bah, pour la version full band, on s'est dit, bah, on peut pas faire ça parce qu'on n'a pas les machines pour. Mais on s'amusait à faire péter donc cette grosse disto. Elle y est que sur ce passage en soi, donc je m'en sers pas beaucoup. Mais ça crée un peu la surprise et là on se fait plaisir, ça tape un peu plus fort. Mathieu fait péter une lead à la place des synthés. Voilà, on revient à nos amours quoi, à nos premiers amours.
Oui. Okay.
J'aimerais que tu montres que t'as des sons qui sont vachement, je sais, qui sont beaucoup plus tordus que ceux-là, parce que là c'est des sons assez standards que tu m'as montré pour l'instant.
Exactement. Bah par exemple, si je prends un exemple d'un tac. Tiens, morceau level. Là, on est sur un son un peu plus perché.
Ah ouais.
C'est pour le morceau, l'intro du morceau, pardon. J'ai voulu un peu reproduire ce que j'avais fait sur l'album avec les archetypes. Puis je me suis amusé, j'ai un peu personnalisé aussi, mais.
Donc il y a quoi là, déjà il y a un effet stéréo, parce que alors ceux qui écoutent en mono avec leur téléphone, ils entendent peut-être pas, mais ceux qui ont un casque, ils entendent, c'est un son stéréo, le son va un peu à gauche, à droite.
Exactement. En fait il y a plus ou moins la même chose que l'autre, sauf que bon, j'ai beaucoup plus poussé le délai et qu'il y a beaucoup plus de feedback et ça va plus loin quoi. Et c'est pas la même reverb là, c'est une reverb ce qu'ils appellent la glitz, qui a un caractère un peu particulier quoi. C'est elle qui fait pas mal la diff. Elle fait pas mal la diff.
J'ai presque cru que c'était une shimmer, moi. C'est fait un peu.
Non, mais il y a un peu de ça. Mais non, c'est pas une shimmer. Non, j'utilise pas de shimmer.
Ça fait un peu de nappe dans le fond.
C'est vrai. C'est vrai, mais tu vois, par exemple, j'ai un autre son qui il ressemble pas mal. En fait, voilà, l'espèce de shimmer, c'est sur cette pédale, fameuse pédale glitz, tu as un pitch, en gros. Tu peux la pitcher. En fait, c'est ça l'idée. Donc, ça fait esprit chimère.
Un pitch, donc juste pour expliquer, c'est dire que le son original est monté d'une octave et envoyé dans la reverb, et du coup, ça fait un peu cet effet planant. On a l'impression d'avoir un son presque de synthé plus que de guitare.
Oui, oui. Bah là, ça sent quand même le guitare viériste, en fait, sur le propos. C'était un petit peu la direction
artistique.
J'aime bien
ce mot, guitariériste.
Guitariériste.
Pas carriériste, hein.
Viériste, parce que arriériste, ouais, c'est moins fun. Mais en fait, comme la prod de l'album a vraiment cette dimension-là, bah, on a un petit peu travaillé dans ce sens pour aller.
T'as d'autres sons à nous montrer, Antoine ?
Ouais, bah, par exemple, là, pour le coup, j'utilise une pédale synthé. Dans la catégorie pitch, c'est la Seismic Synth. Ça, c'était un peu pour. En gros, j'ai repiqué un petit solo de synthé qu'il y a sur mon album, où je m'étais beaucoup amusé, j'ai expérimenté hein, sur l'album. Et pour live, je me suis dit, vas-y, je vais repiquer ce solo. Mais du coup, bah, je vais partir loin, et d'où la pédale synthé qui est un peu imite un synthé, entre guillemets, quoi.
Ouais, c'est un synthé, hein.
Voilà, tu peux t'amuser en faisant des bends comme si t'avais ton petit pitch au côté et tout. C'était l'idée de ce son. Pareil, il y est que quelques secondes dans un morceau, mais ça fait son charme. Moi, j'aime bien ces petites interventions. Et si on peut en montrer un dernier, par exemple, là, c'est pour un morceau plus récent.
la saturation, délai.
Il y a un pitch aussi là pour le coup, pour parce que sur le, en gros, t'as quand même des limites dans les machines. En tout cas pour celle-là.
J'adore devoir jouer parce qu'en fait t'es tout tordu avec une main sur ton pédalboard, une main sur le médiateur.
C'est pour ça que je fais pas des trucs très bien. Ouais.
Mathieu qui tient le micro, c'est de la vraie contorsion. Hein.
Ouais, c'est vrai que c'est pas hyper confort. mais là tu vois sur celui-là de preset est plus différent que les autres. Bon, j'ai toujours encore mon fameux mandarin et le même câble, mais pour le coup là j'ai un pitch en entrée. Enfin avant la tête d'ampli, pardon. Qui lui ramène vraiment voilà ce côté encore shimmer plus. J'ai un délai ping pong
qui part à gauche à droite, ouais, voilà,
qui est très poussé, et une autre réverb encore qui s'appelle la Ganymede. Alors pourquoi j'avais choisi celle-là, honnêtement je me souviens plus,
le nom est rigolo.
Ça marche, ça dure très longtemps, ça c'était l'idée que je voulais, pour que ça fasse vraiment esprit nappe,
ça plane,
voilà, tu vois, il s'arrête pas, faut l'arrêter.
Donc ouais, quand même beaucoup de sons différents, beaucoup de couleurs. Mathieu, toi, tu nous montres 2-3 petits sons ?
Oui, bien sûr.
Alors Mathieu a pris sa guitare, il s'est mis dans une position beaucoup plus confortable
qu'Antoine. Il a mieux anticipé le truc.
On s'est concerté, on a rapproché nos sièges.
Voilà, ouais, ce qu'on aurait dû faire sur la séquence d'avant. Voilà.
Ouais, regarde, là je peux le tenir.
Voilà, oui, parce qu'il n'est pas encore en train de jouer tout de suite, Mathieu.
Ouais, pour expliquer succinctement cette histoire de chaîne là, moi, je passe par un US double NRM que je suspecte être un Fender de Lutz.
Ouais, voilà. US, sûrement.
Oui, effectivement, les US, c'est, en général, c'est les Fender chez
un
bail,
ouais. J'ai un 412 assimilé à iWatt.
412, voilà. En haut-parleur, 4 x 12 pouces.
Ouais, 4 x 12 pouces, exact.
J'explique un peu pour ceux qui n'y connaissent pas trop. Que...
Ah oui.
Parce que des fois, ils sont un peu perdus. Moi, j'ai des gens, des fois, qui ne sont pas musiciens, qui écoutent le podcast. Et qui
c'est vrai, mais c'est cool.
Je te jure, mais
c'est
trop cool.
Non, c'est vrai que c'est très technique.
Moi, à titre personnel, j'ai un peu la détestation, le mot est fort, mais ça me saoule vite les techniciens, ou même en général, les gens qui parlent de trucs comme si tu savais déjà.
Ouais, c'est pour ça. Ouais.
Ce qu'on fait depuis le début.
Ce qu'on fait depuis le début, nous sommes détestables. Donc là, j'ai une simulation de haut-parleur, voilà, ouais. Avec une simulation de micro, un C414.
Okay.
Oh, c'est un type de micro. Après, j'ai un compresseur 3 bandes. Et là, ça devient un petit peu touchy.
Donc vous mettez, toi c'était pareil, vous mettez le compresseur du coup après l'ampli.
Après le câble, ouais.
Pour lisser le signal fini, quoi, un peu.
Oui. Moi, l'objectif là de ces trois premiers éléments, c'est d'avoir un son clair, pur. C'est ce que je recherche vraiment en priorité là-dessus, sur cette machine. Après, ça devient un petit peu touchy, et c'est là où c'est cool d'avoir de la simulation quand même. Je balance dans une boucle parallèle. En fait, je prends une sorte de déviation à droite et j'envoie qu'un certain pourcentage de ce son-là dans un autre ampli. Et t'imagines bien que je ne ferai jamais ça sur scène. Voilà, dans une simulation d'AC30. Suite à ça, je rentre dans une Obsidian 7000 disto. Je ne sais pas ce qu'est dans le vrai monde l'Obsidian 7000, très honnêtement.
Peu importe.
Voilà. Et je balance une disto Obsidian 7000 qui est le mauvais choix puisque ma disto sonne pas encore, mais on y viendra.
Je sais pas si c'est pas pour la basse la Obsidian 7000.
Je sais pas. Moi je trouve intéressant si tu peux travailler toutes les fréquences, tu vois, en fait, quand tu regardes ce preset, je sais pas si c'est le terme consacré, mais tu peux vraiment aller chercher. T'as une sorte d'EQ où tu peux aller faire travailler ta disto de manière très précise.
D'accord, okay.
Donc c'est quand même plutôt intéressant. Et je finis ma chaîne avec un égaliseur graphique 10 bandes. Voilà.
Donc en gros, pour bien résumer, donc t'as ton signal qui part d'un côté dans un ampli Fender et de l'autre côté en partie dans un ampli Vox.
C'est ça, voilà.
Et pourquoi t'as fait ce choix ?
Eh ben parce que je voulais avoir du grain mais pas trop.
Ok.
Là, on est vraiment dans chichi cuisine. J'adore, j'ai l'impression qu'on fait un podcast de cuisine. Ouais, je rajoute un peu de mayo, nanana, muscade. Bravo. C'est trop cool. En fait, je trouve sur cette boîte, au niveau que j'ai pu l'explorer, j'y ai passé un peu de temps quand même. T'es rapidement dans le grain, dans le gain, dans un truc un peu flatteur, un peu guitare électrique, crin-crin. Mais moi, je voulais aussi retrouver un son clair un peu cristallin et rond en même temps. Pour info, j'ai une Telecaster Custom Japon, voilà, c'est...
De Fender,
bien sûr, oui. Qui est une Telecaster d'hérétique, parce que t'as 4 positions sur le micro, pour, là on parle, voilà, bref.
Elle vaut quand même un SMIC, pour de l'hérésie quand même, voilà, on est sur quelque chose de joli, quoi.
On salue mon PEL, bien sûr.
Voilà.
Donc non, c'est une super guitare, donc elle a ce côté claquant, le twang là.
La Telecaster.
Ouais, de la Telecaster, j'aime bien. Donc je voulais garder ça, mais je voulais en fait pouvoir contrôler via les snapshots que nous a expliqué Antoine. Avec un bouton, tu changes plein de paramètres de tout ce que tu as fait. Et ça, pour moi, c'est un des intérêts principaux de ce type d'outil. Passer d'un son très propre à un son un petit peu crunchy, mais pas trop. Sur l'album, il y a de ça, sur ces belles guitares
Donc si je comprends bien, c'est que tu passes par exemple dans le Fender pour avoir ton son clean de base, et avec ton snapshot, tu vas plus ou moins envoyer du Vox.
Grosso merdo, c'est ça. Et en fait, sur le crunch, du coup, je vais avoir un petit... Je vais modifier un petit peu ce mélange et mettre plus de train-train, plus de gain, plus de choses comme ça. Alors ça donne ça, hein, grosso modo, ça va être subtil, mais... Son clair, tout mignon. Mmh. Là, j'ai fait Wasted, le refrain que je ne joue pas du tout comme ça, mais on s'en branle. Et là, je vais mettre le crunch pour que vous ayez un peu l'idée. Si je pousse, il y a du drain-drain, ouais, si je joue doux, il y en a un peu moins.
Mais on garde... Ouais, il y a quand même ce côté un peu du claquant de la Telecaster qui ressort.
Bah, c'est vrai, on l'entend tout de suite, la télé. Ouais. Hein. Par rapport à moi, tu vois, c'est pas du tout pareil.
Voilà, c'est un petit peu plus rond, un petit...
Ok, ouais. Et ça réagit quand même vachement bien à la dynamique de jeu.
Oui, oui. Il y en a qui pensent que non. Moi, je trouve que...
Ah si, ouais, je trouve
que oui. Voilà. Mais c'est toujours pareil, en aveugle, c'est à l'heure actuelle, je trouve quand même vachement difficile de discerner si t'as une prise réelle, acoustique. Ouais. C'est un peu des débats d'une... Oh. Et je viens de renverser ma tasse de café. Vide, bien sûr.
Heureusement, c'est un peu des, sur la ligne,
c'est un peu des débats d'initié, parce que finalement, aujourd'hui, on écoute... Enfin, quand tu vois que... Je me permets une petite digression rapide.
Digresse.
Quand tu vois que tu... Dans ta voiture à 2000 euros... Tu rentres ton matos à 5000 euros sur ton album qui t'a coûté 10 000 euros pour que les gens écoutent sur une enceinte à 30 balles.
Parce qu'il m'a pas payé tant que ça, moi, pour le mixage.
Attends, il m'a pas coûté 10 000 balles l'album.
Je voulais pas créer la discorde, messieurs. Non, mais tu vois, en fait, ce que je veux dire, c'est que ne serait-ce que sur les moyens d'écoute du grand public, je fais bien sûr des généralités. C'est dur de discerner la différence à l'heure actuelle, je trouve, avec la technologie, en vrai. Voilà.
C'est vrai.
C'est plus de l'ordre du plaisir aussi de ta pratique sur scène. On parlait de pression acoustique, de sensations de jeu, et puis aussi de la culture de l'ampli, en fait. Ça fait partie de nos vies. On est suffisamment vieux pour dire qu'on a joué sur ampli, à la base. Voilà.
T'as d'autres sons un peu magiques?
Ouais, succinctement. Alors moi, j'essaye un petit peu de doser mon rapport aux effets. Je crois que c'est un petit peu l'étape suivante pour nous, c'est de se dire comment on fait mélanger nos effets au-delà des sons propres, quoi. Donc je suis sur cette Beat Sky où moi j'ai essayé d'avoir plusieurs presets par morceau sur ma Beat Sky. Beat Sky, c'est une machine énorme, trop bien. C'est comme toutes les machines énormes, trop bien. Quand tu peux faire 50 000 choses, il faut y passer au moins 50 heures.
Il faut faire un choix.
Ouais, faire un choix. Donc là, voilà, c'est toujours work in progress. Mais par exemple, sur l'intro de Wasted, moi j'ai pris le parti. Je suis un peu plus shimmer. Bon, là, en l'occurrence, c'est l'effet choral sur la Strymon qui permet de garder un son comme si tu avais une chorale. Donc tu peux choisir, ça fait des A, des I, des O. C'est un peu rigolo. Mmh. Ça donne ça. Et ça dure et c'est mignon. Et voilà, ça peut suffire, tu vois, par rapport à l'ajout des effets d'Antoine. Après, j'ai des reverbs, tout ce qu'il y a de plus classique. Hein, parce que ça suffit, que c'est pas parce qu'on peut qu'il faut le faire, toujours. J'ai 2-3 shimmers pour le coup. Moi, je suis allé un peu dans le shimmer. Je vais vous en montrer un sur.
Moi, j'aime bien les shimmers parce que c'est tout de suite beau une shimmer. Tu fais une note et c'est genre.
Ouais, c'est vrai. Oui, c'est.
C'est un bol tibétain un peu.
En vrai, je suis d'accord avec toi.
La comparaison est recherchée.
Je suis d'accord avec toi. Alors là, par exemple, j'ai fait un truc extrême, puisque c'est une intro où, en fait, sur l'album, sur le morceau 30, il y a une entrée de son qui fait wow, comme ça. Donc, je suis allé chercher un petit peu comment je pouvais le faire au volume de ma guitare. Donc, j'essaye quand même de jouer Jean-Michel Clavier, guitaviériste, tu vois. Et ça, ça peut traîner avec la beatstack. Tu peux garder les sons, tu peux les désactiver. T'as plein d'options, je rentre pas dans le détail. Mais voilà, pendant qu'il nous délivre sa voix suave.
Elle ne s'arrête pas.
Il y a ça, voilà. Donc, ça, c'est un petit peu Shimmer de l'extrême. J'en ai d'autres. Sur Level, par exemple, le titre Level. Par exemple, bon, ça c'est. C'est pas celui-là! Yes!
Ah. Ouais.
Ah, j'essaye de peut-être en mettre un peu moins, de laisser le lead des effets.
Devant, ouais.
Ouais. À Antoine, faut qu'on dose aussi, voilà, c'est toujours une.
Ouais. Ah, disons, quand t'en as un qui a un son qui part beaucoup, comme par exemple le dernier que je t'ai montré. Faut pas que l'autre guitariste ait la même chose, sinon ça va être cacophonique, quoi. Ça, y aura trop d'effets, tu les fais. Faut pas que ça se bouffe.
J'insiste.
Donc on essaie de faire gaffe à ça.
C'est pas parce qu'on peut le faire, parce qu'on peut faire un million de trucs, qu'il faut le faire, donc il faut beaucoup travailler là-dessus. Et pour finir, j'ai quand même une pédale extérieure, un délai. Ils sont plutôt classiques. Pareil, il faut passer beaucoup de temps pour chercher un petit peu, trouver ce qu'on veut. Vous avez entendu le délai ?
Oui.
C'était pas un pain. Voilà, ce genre de choses qui sont couplées aussi à mes réverbes. Donc j'ai toujours un petit peu de jeu de jambes, mais beaucoup moins que quand tu m'avais vu en juillet. Et pour conclure, peut-être la disto, la Ternum Ridge, que je trouve donc du coup quand même plutôt convaincante. J'ai pas encore réussi à trouver une disto qui me plaît sur la Shitstomp, pareil, Work in Progress, mais sur la Ternum Ridge, c'est utiliser vraiment quand il faut que je perce le mid, que j'ai un truc un peu lead à l'image de sur 30 encore. Coupé, il y a trop de trucs. Donc voilà les enfants, à quoi.
Tu fais tout ça avec tes pieds.
Voilà les enfants, à quoi ça sert des snapshots.
Exactement. Mais en live, ça marche.
Oui. Non, mais ouais, en fait, t'as des bandes de sons sur la BeatSky et la timeline. En fait, je mets une banque, un morceau, ouais. Et en fait, j'ai juste à faire clic une fois, quoi. Voilà, on a plutôt une jolie disto que j'ai pas poussé à fond, mais je l'utilise un petit peu comme un étage de gain et c'est cool.
Bah merci d'avoir montré tous vos sons. C'est intéressant, ça donne un petit, ça laisse apercevoir différentes possibilités de sons qu'on peut faire avec toutes ces jolies pédales. Antoine, tu l'as pas aujourd'hui, mais tu vas bientôt avoir une nouvelle guitare, il paraît.
Oui, oui, je voulais en mettre un, un petit mot là-dessus. En fait, j'ai un très bon copain luthier qui est en train de me faire une guitare sur mesure, donc Max Lutry, on l'embrasse. Et c'est imminent, je devrais la voir sous peu, donc peut-être que le podcast sera sorti, vous aurez vu sur les réseaux que j'ai déjà la guitare du coup, mais là actuellement je ne l'ai pas.
Son atelier est à Dessine, venez nombreux et nombreuses.
Oui, exactement, il est basé sur Dessine.
On n'est pas sponsorisé par Max Lutry.
Non, pas encore. S'il nous entend. Non, c'est très chouette parce que déjà c'est un très bon copain.
Tout ça c'est les lobbies.
Ouais. C'est un très bon copain parce que j'ai fait de la musique avec lui, c'est une belle reconversion parce que de base on faisait le même ancien métier tous les deux dans l'imprimerie, on s'est connus comme ça dans les études. Et donc c'est chouette qu'aujourd'hui lui il puisse faire ça, tout comme moi je fais de la musique à temps plein. Donc c'est plutôt cool en fait dans l'histoire de faire ce projet ensemble. Donc on a choisi le bois, les micros tout ensemble, c'est un peu plus personnalisé. Je peux t'en dire 2-3 mots, mais bon après ça, je l'ai pas là, mais bon. Ouais, en même temps il y a pas d'image, donc bon.
Non mais j'interviewerai Max.
Mais oui, c'est peut-être une bonne idée.
Bon on a bien causé ensemble, on a appris plein de choses. Est-ce que vous avez des sujets que vous auriez aimé aborder qu'on n'a pas eu le temps de voir?
Les futures dates
Les futures dates, un mot sentimental pour dire que j'adore jouer avec mes copains aujourd'hui. Oh. Je l'ai pas assez dit tout à l'heure. Que c'était vraiment important pour moi et que ça se profile bien. Et qu'on a quelques dates qui arrivent. Là, on a le 23 février sur Lyon, à l'Antidote. Après, au mois de mai... Et merde, je connais pas les dates par cœur, mais faut nous suivre sur
ça
les réseaux.
Ça se prépare une interview.
Et voilà. Ah, non, mais c'est tout sur les réseaux. Il y a des choses. Au mois de mai, on sera à Morestel, au Mills. En juillet, on retourne au Brock Café à Tigneux.
Yes.
Le 5 juillet. Et on va aussi en Haute-Loire le 19 juillet. Donc voilà, on a 3-4 dates qui se dessinent et j'espère
c'est
plus
cool.
Encore
ça
dans l'année.
Lance.
Mais ça se lance petit à petit. Je rappelle que c'est du DIY, autoprod, machin. Donc bref, les dates, on les trouve par nous-mêmes. On a pas de personne attitrée pour ça. Donc c'est pour ça que c'est un peu timide encore. Mais voilà, j'espère que l'avenir sera radieux.
Ouais, il y a quand même une grosse marge de progression sur le son, le fait que Antoine nous amène ses compos maintenant directement dans une optique de groupe. Le visuel, des futurs enregistrements,
voilà,
la résidence,
on voudrait faire un EP, ouais, ça serait sympa. Dans l'année, en tout cas, on va essayer de le mettre en place. Peut-être pas l'enregistrer dans l'année, mais pourquoi pas commencer. On voit un peu au jour le jour, quoi. On n'est pas sur un projet avec des deadlines à court terme. On fonctionne pas comme ça.
C'est
pas
ça,
encore.
Ça reste beaucoup de plaisir.
Oui, ça reste du plaisir parce que les copains aussi, que ça soit Fus ou Raph, eux aussi, ils le voient comme ça. Ils ont leur métier à côté, donc il faut pas non plus se permettre de passer des journées entières à geeker comme nous on fait avec Matoche.
Parce que vous deux, vous êtes musicien professionnel.
Oui.
Oui, Antoine, il est plus du côté de l'intermittence.
Moi, je suis intermittent du spectacle.
Et moi, je suis plus du côté de l'enseignement.
Ok. Et Fus et Raph, eux, on travaille normal.
Ils sont commerciaux.
Normal, comme c'est musicien, t'es pas un travail normal.
Oh. Qui a dit ça?
Mais on est les premiers à mal le prendre d'habitude.
C'est vrai.
Là, on le dit.
Pourquoi on s'auto-clash?
Ouais, pour le coup, ils sont tous les deux commerciaux. Il y en a un, c'est chez Bic. Ils vont des briquets et des stylos.
Là, on peut dire qu'on est sponsorisé par Bic, non? Voilà. On peut se le dire ou pas.
Et l'autre, il est dans le bio, il fait des sauces. Il fait de la sauce bio chez Quintessence. Voilà, ouais, il faut qu'à faire, on dit les blagues.
Le mec, il a tout donné. On se souvient plus des dates.
De concert, non,
mais on se souvient d'où bosse.
Mais j'ai souvent de l'huile d'olive gratos par mon copain, donc c'est plutôt sympa. À toi aussi, t'en as déjà donné. Ils font sauce et huile. Bref, donc en bon, ils ont un métier, en tout cas, qui les occupe. Raph, il est sur Aix, en Provence, en plus, donc il est pas dans la région. D'où le fait qu'on a une fréquence un peu discornue des fois.
Ouais, ça c'est reste pour autant de très bons musiciens, très investis, quoi.
Et puis on se fait des grosses journées répètes. Quand on répète, c'est pas du 2 heures, quoi. C'est une journée entière, hein, ou sur un samedi ou sur un dimanche.
Ouais, vous faites des grosses sessions.
Ouais,
faut essayer.
On essaye. Dans l'idéal, on fait ça, ouais. Donc c'est cool. Et ça marche bien parce qu'en plus on répète dans des locaux propres, bien équipés, donc ça fait plaisir, permet de travailler bien, quoi.
Pour terminer l'interview, moi j'aime bien que les musiciens donnent un conseil aux autres musiciens, que ce soit comme moins d'expérience donc ouais, j'aimerais bien un petit conseil pour nos auditeurs.
Je te laisse commencer.
J'essaie de me souvenir du conseil que j'ai donné avec les camarades de 111 à l'époque. Je
pour
me souviens
pour pas.
Pas
donner le même.
Ouais, peut-être.
Sinon, je fais copier-coller. On s'en va pas.
Non.
Toi qui es prof, par exemple, si ouais. T'avais un conseil à donner à tes élèves.
Un truc qui fasse pas trop boomer, quand même.
Ouais, c'est ce que tu veux.
Travaille ton jeu. Travaille à la maison.
J'aurais tendance à dire que ce que vous voyez et écoutez sur les réseaux et sur Internet en général, parce que c'est le moyen de diffusion de la musique maintenant, c'est un... Avant, le défi, c'était de diguer, de trouver des trucs. Maintenant, c'est de trier. Trier ce que vous écoutez. Vous ne laissez pas bouffer par les algos. Je vous avais dit que ça serait boomer. Et j'ai un conseil dans le conseil. Ce que vous entendez aussi sur les gens que vous voyez sur les réseaux qui jouent, hein, dans la jouerie pure et tout, ce n'est pas la réalité du quotidien de quelqu'un qui fait de la musique. Vous voyez, le côté produit, le côté hyper classe, le côté c'est simple, le côté... Ça, c'est le fin de chaîne d'un milliard de choses qu'on vit quand on pratique au quotidien. Et ce truc-là, je trouve qu'il n'est pas assez mis en valeur, voilà, sur les vidéos qu'on voit, sur les gens qui en parlent. Et du coup, j'apprécie ton invitation d'autant plus que là, finalement, tu parles un peu du réel. Ouais. Et en fait, le réel, ça fait du bien. Les conditions matérielles des distances, ça fait du bien. Donc, merci à toi.
C'est un plaisir. Et toi, Antoine?
Moi, je vais plus aborder l'aspect artistique, bah, de mon point de vue, vu que de base, c'était un projet solo. Juste avec beaucoup de recul, parce que c'est des choses qui m'ont rongé longtemps. Parce que ça fait quand même pas mal d'années maintenant que je me le traîne, ce projet solo. Avec des hauts et des bas, beaucoup de bas, beaucoup de murs. Et je pense qu'il, là, avec du recul, je me dis, faut pas oublier que ça reste du coup un plaisir. Tu vois, là, enfin, en tout cas, moi, comment j'aborde ce projet, c'est, je l'aborde pas forcément de, dans une vision tout de suite professionnelle, même si je veux la qualité, pas forcément l'enjeu pro, pas pour ça. Et de se dire des fois, en fait, ok, aujourd'hui, il faut passer par la com, il faut passer par plein de choses, du visuel, du. Mais n'oublions pas la musique.
Ouais.
Voilà, je sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit, mais.
Là, c'est...
Le kiff.
C'est... Bon, j'aime pas conclure. En général, je préfère que ce soit l'artiste qui conclue, mais comme tu disais, c'est que quand on voit maintenant sur les réseaux, on est inondé de vidéos, oui, de trucs. Et en fait, des fois, on se dit, mais quand est-ce que je joue de la musique alors que je dois faire des vidéos pour Facebook, que je dois.
Faut faire un clip. Par oui. exemple, j'ai fait un clip pour mon album, je le glisse comme ça vite fait avec Fat Cut Production. On l'embrasse. Il m'a fait un
Bisous.
Très beau travail.
Bisous Fat Cut.
Parce que ça, tu vois, c'était le truc, je savais, qui était un peu l'arme absolue quand tu sors quelque chose. Même encore aujourd'hui, je sais que si on doit faire un EP pour le club, il nous faudra un clip pour l'accompagner. Mais c'est vrai qu'au-delà de penser tout ça, il y a un moment, j'ai trop pensé à la côté et j'étais arrivé dans un del où musicalement, ça devenait un peu machinal. Et en fait, tu dis, bah non. Faut pas non plus négliger la qualité de ta musique en premier. Et je trouve ça un peu dommage de voir certains peut-être prendre le problème à l'envers. J'ai l'impression que ça se fait.
Mais c'est ironique parce que je rebondis succinctement. Tu vois, je suis par exemple des chaînes d'actualité musicale qui parlent de rap parce que c'est pas trop ma musique de base, mais déjà je suis prof et deux, ça m'intéresse. C'est fou comme, je sais pas si c'est cynique ou l'air du temps ou si j'ai loupé un étage. Tu vois, les gens vont juger un album sur ces chaînes-là de manière très analytique, c'est cool, mais vraiment la notion marketing juge de la qualité de l'œuvre.
Ah ouais.
Dans leur grille de lecture. Mais c'est normal, je sais pas si c'est voulu, pas voulu, pensé, pas pensé. Et en fait, moi, ça m'échappe un peu, quoi.
Ouais, je comprends.
Voilà, de se dire, là, c'était un bon plan com, ça fait partie de la qualité de l'album.
On finit là-dessus.
On finit là-dessus.
Merci, GG.
Au revoir tout le monde. Merci à vous.
Salut, salut, salut,
salut
tout le monde.
Allez, bisous.